France Inter. .fr.
Bonjour Yves Decamp.
Bonjour.
Revue de presse où l'on parle ce matin du bonheur.
Eh oui, qui n'est pas dans le prêt, hein, s'agissant de la Grèce. On va y venir, le prêt avec un T. Alors qu'y a-t-il de plus important que la question du bonheur, qui est évidemment l'objectif absolu, mais c'est quand, c'est où, c'est quoi le bonheur? Alors d'abord peut-être les vacances, voir ce qu'en dit Pascal V dans Le Figaro, le soleil, la plage, les enfants, les copains, et pouvoir deviser enfin longuement avec les autres. Et oui, le bonheur, ça passe aussi par la conversation. Et justement, c'est le paradoxe de notre temps. Jamais nous n'avons été si connectés les uns aux autres. 277 000 tweets par minute en France. Mais jamais nous n'avons eu autant besoin d'échanger. La preuve, des festivals et des livres, de plus en plus, qui nous invitent à ne pas confondre connexion et conversation. Bref, à revenir au bonheur de converser. Le créateur du Festival des Conversations, Emmanuel Villemot, le dit au Figaro. La conversation, c'est une chorégraphie qui nous unit, une promenade au cours de laquelle on recherche ensemble une forme d'harmonie. Voilà, quant à savoir où le chercher, ce bonheur, eh bien c'est pas compliqué pour les Français. Ils l'imaginent à Bordeaux. Bordeaux, Montpellier, Nantes ou Toulouse, c'est le classement dans l'ordre de l'Observatoire du Bonheur, à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, des villes du Sud et ou proches du littoral, et puis des villes écolo pour l'essentiel. Les Français d'aujourd'hui veulent des commerces, des transports, des activités culturelles, mais ils veulent aussi des potagers. En fait, ils sont bien en ville, commente Florence Deguin, mais ils vivent avec une petite voix angoissante qui leur répète qu'il serait plus sain de vivre au vert. Et en plus, ce serait moins cher. Et ça, c'est aussi ce que beaucoup de Grecs ont compris. On y vient. Témoignage sur le site rue 89, le patron d'un petit hôtel de Crète. Avant, je travaillais dans un 5 étoiles en ville. 500 euros par mois. Une fois payé le logement et le téléphone portable. Vous voyez ce qu'on disait dans l'ordre des priorités. Il y a le téléphone portable. Eh bien, une fois tout ça payé, il te reste quoi? Rien. Aujourd'hui, dans mon village natal, petit hôtel, plus récolte des olives, plus petit boulot à la station-service, eh bien ça va mieux.
La Grèce, où les banques resteront fermées toute la semaine.
Eh oui, drôle de drachme, comme on dit sur le Huffington Post, mais fallait ça pour éviter la catastrophe qui surviendra peut-être, malgré tout. En fait, personne ne sait ce qu'une sortie de la zone euro provoquerait vraiment. C'est le chaos annoncé pour les échos, qui voit la Grèce, comme le Figaro, au bord du précipice, au bord du naufrage dans le Parisien, où Tsipras est comparé à Ponce Pilate avec son référendum. Le premier ministre grec viendrait ajouter de la confusion à la déroute financière. Ce que pense aussi Marc Sémo dans Libération, que Tsipras fait preuve d'irresponsabilité, d'autant plus qu'un accord semblait imminent à Bruxelles, dit-il. Alors oui, la lassitude des Grecs face à l'austérité, on peut comprendre. Oui, ils ont fait un choix démocratique, mais la sortie de l'euro aggravera la situation des plus démunis. Et puis les autres gouvernements de l'Union, après tout, ont eux aussi été élus démocratiquement. Alors qu'on se le dise, Jacques-Olivier Martin dans le Figaro enfonce le clou. Ce que Tsipras propose à son peuple, dit-il, c'est un grand saut dans l'inconnu. Aux Grecs de comprendre que partout ailleurs, Irlande, Espagne, Portugal, les efforts ont payé. C'est vrai que la Grèce n'est pas encore un État moderne, et ça c'est un historien grec, Nicolas Bloudanis, qui le dit au journal La Croix. Elle est encore comme au temps de l'Empire ottoman, vivant d'une économie de pillage, non plus sur le fruit des expéditions militaires comme autrefois, mais sur les emprunts. Langage incompréhensible évidemment pour l'humanité, qui se réjouit de son côté de ce que le dernier mot revienne au peuple et pas au maître chanteur. À Bruxelles, écrit Maud Verniol, le boudoir des tyrans de la finance doit redevenir la maison des peuples. Plus prosaïquement, on peut admettre avec Laurent Marchand dans Ouest France, sans rien noter des responsabilités d'Athènes, qu'il y a quelque chose de malsain, de punitif, dans la façon dont l'Europe du Nord a voulu casser Tsipras, le mettre dans une position humiliante. Et finalement, pour conclure avec Bernard Stéphan dans La Montagne, n'est-il pas temps pour l'Europe de sauver la petite Grèce, en procédant à ce qui a toujours été fait dans l'histoire, à minima, une réduction de la dette, et en imaginant, pourquoi pas, un plan Marshall, comme on l'a fait jadis pour aider l'Europe, et notamment pour aider une Allemagne exsangue.
La petite phrase de Manuel Valls qui fait polémique.
Petite phrase et grands effets. Guerre de civilisation, dit-il, évoquant le terrorisme islamiste. C'est notre société, nos valeurs, notre civilisation que nous défendons. amalgame dangereux pour la Croix. La lutte contre Daesh n'a rien à voir avec un choc de civilisation, titre l'Humanité. Même si le Premier ministre s'est lui-même contredit en faisant le distinguo islam-islamisme, il aurait été bien inspiré, conclut Grégoire Bizot, dans Libération, de laisser à la droite la plus conservatrice cette triste guerre de civilisation. Sauf à penser, comme le dit Jean-Pierre Lacan dans Le Midi Libre, que les égorgeurs de Daesh puissent appartenir à une civilisation alors qu'ils ne sont que des barbares. Alors là, peut-être faut-il parler plutôt d'un choc entre deux barbaries. Et c'est ce que faisait Philippe Muret en poussant loin le sens de la provocation comme il se doit. C'est Vincent Trémollet de Villers qui le reprend dans Le Figaro. Philippe Muret qui s'adressait aux djihadistes dans un texte de 2002. Craignez la colère du consommateur, du touriste et du vacancier descendant du camping-car. Vous nous imaginez vautrer dans des plaisirs et des loisirs qui nous ont ramollis, leur disait-il, mais nous lutterons comme des lions pour protéger notre ramollissement. Et plus loin, chers djihadistes, en chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés dans notre magasin de porcelaine, mais c'est un magasin dont les propriétaires de longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s'y trouvait entassé déjà. En somme, vous êtes des démolisseurs qui s'attaquent à des destructeurs. Mais vous, poursuit Philippe Muret, vous, c'est illégal, alors que nous, eh bien, c'est dans l'enthousiasme général que nous nous débarrassons des derniers fondements de notre civilisation. Voilà, chers djihadistes, nous triompherons de vous, nous vaincrons, car nous sommes les plus morts. Voilà, Philippe Muret, dans le texte, expéditif, mais beau. L'essentiel, cela dit, c'est de reprendre la conversation. Bonne journée.